Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Voici le miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger, réalisée par... Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018, une devise que nous faisons nôtre dans cette émission sur RKS. La promesse est de vous parler de tous ceux qui font parler de science, les chercheurs bien sûr, mais aussi les médiateurs et pas les bonimenteurs. Le miroir des sciences, c'est chaque semaine une rencontre avec des personnes qui nous rendent la science plus facile et plus proche. Ils nous parlent de leur passion et partagent leur savoir, bien sûr, mais ils nous parlent aussi d'eux et de leur parcours. Le festival Transfo rassemble les passionnés de la transition numérique sur le thème de la préservation de la planète. Il aura lieu du 8 au 15 octobre à Grenoble et dans le sillon alpin. Donc ça se passe à Grenoble, à Valence, Romans, Chambéry, Annecy, et dans le Genevois français. Le premier de nos invités met la bûche dans le poêle pour faire chauffer le festival. La seconde invitée craque l'allumette pour l'enflammer. Nos invités aujourd'hui sont donc Vincent Lehen, l'un des coordinateurs du festival, et Émilie Rondet, déléguée générale de la French Tech in the Alps, Grenoble. Vincent, Émilie, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence cette émission un peu en panique, pour des raisons que je ne détaillerai pas, qui sont liées à la technique ici à RKS. Mais c'est pas grave, on va continuer de façon très détendue. Qu'est-ce que vous faites le samedi matin habituellement? Là, on vous a capté pour venir à la radio, mais voilà, vous êtes plutôt marché, grasse mat
Plutôt grasse mat pour moi.
Ah, donc c'est un peu tôt? 10 heures, c'est un peu tôt?
Non, 10 heures, c'est pas un peu tôt, c'est l'heure de lever qui a été un peu tôt pour venir à 10 heures.
Émilie?
Alors moi, c'est plutôt marché et j'ai déjà fait le marché.
Alors, il faut qu'on explique... Ben, c'est super! Donc, le, vous êtes une lefto, alors. Il faut qu'on explique aussi à nos auditeurs que... On est perturbés tous, je crois, par ces histoires de masques. Donc, on met nos masques, on enlève nos masques, on remet nos masques, on parle au micro avec ou sans masque. Et donc, ça va peut-être aussi un peu nous poursuivre tout au long de l'émission et on s'en excuse par avance. Au cours de l'émission, nous écouterons une des pastilles Le Monde qui vient, qui était diffusée tout cet été sur l'antenne de RKS. Et nous entendrons le point de vue de Federico Pini, qui est doyen du corps professoral de Grenoble École de Management, et je l'ai choisi spécialement pour vous faire réagir, puisqu'il parlait de la société numérique. C'est bien le sujet dont on va parler tout au cours de l'émission. Et puis, nous aurons aussi les premiers mots sur ce plateau de Raphaël Varela. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Donc, vous pouvez peut-être baisser un tout petit peu le masque pendant que quand vous parlez. On vous entendra mieux. Et vous aussi, vous avez bûché sur le monde numérique et plus spécifiquement sur les GAFAM.
Oui.
Ce sera ça le thème de votre chronique un peu plus tard dans l'émission.
Exactement.
Alors Vincent Lehen, l'un des coordinateurs du festival, Émilie Rondet, déléguée générale de la French Tech in the Alps Grenoble. Je n'ai pas mis dans mes questions, je n'ai pas prévu de vous interroger sur ce que c'est que la French Tech, mais tout le monde ne le sait pas. Donc peut-être on peut commencer par ça, ce serait pas mal de le rappeler.
Oui, bien sûr. Alors la French Tech, c'est à la base une dynamique nationale. Ça a été créé en 2013-2014 par la secrétaire d'État au numérique qui s'appelait Fleur Pellerin à l'époque. Donc c'est rattaché au ministère de l'Économie et des Finances. Et l'idée principale de la French Tech, c'est de faire de la France une nation qui compte sur tous les sujets liés à l'innovation. Alors c'était très orienté numérique au départ. Il s'avère qu'aujourd'hui, de nombreuses innovations sont très liées au numérique. Et en tout cas, sur toutes les innovations et les entreprises qui sont créées, c'est vrai que la technologie numérique est un élément un peu... un indispensable ou en tout cas un élément qui peut permettre en fait de créer en fait un aspect concurrentiel qui permet de différencier les entreprises.
Voilà, pour qu'elles puissent avoir des places sur les marchés. Festival Transfo, on reviendra sur la transition numérique qui va encore plus impacter, on s'en rend peut-être pas compte, mais nos vies dans tous les domaines, y compris pratiquement tous les domaines industriels. On y reviendra un peu plus tard. Parlez-nous un peu de Transfo. Alors, la définition de Transfo, Vincent Lehen, ce festival. Bon, alors Émilie Rondet, allez, ils se battent pour ne pas parler.
En fait, pour
on
expliquer...
est mal barré hein, dans ce genre, cette émission.
En fait, au niveau peut-être des rôles sur le festival, en effet, Vincent est beaucoup plus sur la communication et moi, je suis plus sur la coordination du festival.
Ouais.
Donc c'est pour ça peut-être.
Oui, mais vous êtes quand même, vous êtes intéressé par le sujet, vous êtes complètement embedded pour faire un anglicisme.
Oui, oui, on est bien évidemment. En fait, non, je disais Émilie parce qu'elle connaît beaucoup plus l'historique et l'existence du festival. Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, au final, sur le projet. Mais du coup, j'ai oublié votre question. Je suis désolé, c'était quoi?
C'est quoi ce festival? Tout
pardon,
simplement.
Voilà.
Je crois que vous êtes venu pour nous en parler.
Tout à fait. Je m'excuse. Donc, c'est un festival qui se déroule sur une semaine, comme vous l'avez dit. Et l'idée, c'est de questionner notre rapport au numérique et la place du numérique dans la société. Voilà.
D'accord, et donc c'est un festival qui fédère de nombreux événements. Et il y a une thématique particulière cette année.
Cette année, c'est « Quel numérique pour la planète ?» Et ça fédère effectivement tous les acteurs du numérique sur le sillon alpin, donc principalement effectivement Grenoble, qui est la ville phare d'origine, mais également les cinq villes en gros que vous avez citées tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'une part de les mettre, eux, en valeur, ces acteurs-là du numérique, ces entreprises qui travaillent sur ce champ-là, et également de faire rencontrer le public et d'ouvrir un petit peu cette thématique au plus grand nombre.
Oui, donc il y a des événements qui sont plutôt orientés vers les professionnels et des événements plutôt vers le public. Et puis on essaye de faire des passerelles entre les deux.
C'est ça.
Et ce qui est peut-être important d'ajouter, c'est que Transfo n'est pas à la manœuvre et n'organise pas tous les événements. C'est que c'est une multitude de petits événements ou de grands, donc là plutôt petits vu le Covid, hein, bien sûr, qui sont organisés. Voilà. Donc on a...
Il y en a près de 200. Vous en espérez près de 200. C'est ça, c'est une espèce de matière en mouvement. Hein.
On en avait 220 exactement pour l'édition du mois de mars. Enfin, je parle d'édition du mois de mars parce que ça devait avoir lieu au moment du confinement. Donc bien évidemment, on l'a reporté là à octobre. Et pour octobre, on n'a pas atteint les 200, on en a 150.
150. Et par contre, donc, ce qu'il faut peut-être préciser d'ores et déjà à nos auditeurs qui seraient intéressés par le festival, c'est qu'il faudra vérifier pour chacun des événements auxquels ils voudraient assister, il faudra vérifier s'il se tient effectivement en physique ou en digital.
Tout à fait. Hein? Aujourd'hui, on a environ 40 événements qui sont proposés 100% en ligne. Sur ces 40, on en a 6 qui sont en format hybride, donc en présentiel et en ligne. Et bien évidemment, la jauge en présentiel est particulièrement réduite cette année, de plus en plus d'ailleurs avec les nouvelles conditions sanitaires liées au Covid. Donc on a des jauges qui étaient initialement à 100 ou qui sont passées à 50, qui passent aujourd'hui plutôt à 20 par moment, suivant les lieux. Donc
c'est bien, ça peut être intime et ça peut permettre justement un peu plus d'échanges.
Oui, oui, tout à fait. Après, effectivement, de toute façon... Si les restrictions sanitaires se renforcent, hein, ce qui est toujours faisable et possible avant le 8 octobre, on a toujours aussi une cinquantaine d'événements qui auraient la capacité de passer de présentiel à 100% en ligne. Donc on a quand même de quoi assurer une semaine dédiée au numérique avec du contenu et des événements très variés.
Alors, je le disais, le numérique transcende ou va transcender encore plus fortement nos vies dans le futur. Et il y en avait une belle illustration pendant cette période de confinement du printemps. Nous, tout au long de l'été, avec Sébastien Berger, on a recueilli le témoignage d'un certain nombre de personnes, beaucoup d'académiques, mais pas que, des acteurs de la vallée grenobloise, sur le sens de la crise. Je vous propose d'écouter le point de vue de Federico Pini, qui est donc professeur et doyen du corps professoral de l'école Grenoble, école de management.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
La crise a été en changement et donc une opportunité. La crise nous a mis en face à la nécessité de travailler différemment, d'agir différemment, d'avoir un relationnel différent. Il nous a enseigné aussi l'importance de nos relations sociales. Et ça, c'est effectivement un message, je pense, très fort. Parce qu'on peut travailler, on peut faire nos rendez-vous, on peut caler nos meetings, mais nos relations sociales...
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mesdames.
Frédéric Copigny, vous êtes donc professeur à Grenoble École de Management, GEM, et vous avez récemment été élu doyen du corps professoral de GEM, et vous signez en 2019 dans The Conversation un article qu'on peut retrouver donc sur le site de The Conversation, dans lequel vous soulignez que les enjeux managériaux et les enjeux de nouveaux business sont totalement absents du débat politique sur la 5G. Est-ce que la crise de 2020 et le secours que nous a apporté le monde numérique ouvrent de nouvelles perspectives justement sur le développement du haut débit, de la 5G, voire de la 6G?
Typiquement, on a l'habitude à créer un produit et le faire sortir de nos entrepôts, c'est vendu, au revoir, c'est fini, on aura, oui, on SAV, mais le produit n'évolue plus.
Donc c'est ça que vous évoquez, c'est des objets qui, physiques qui peuvent évoluer par les mises à jour.
C'est effectivement de dire que le monde, disons, est effectivement en train de changer dans le sens que l'idée, c'est vraiment qu'on a la capacité de plus en plus de mettre du logiciel qui nous donne la flexibilité carrément du logiciel de, si on veut se connecter aux propriétés, aux caractéristiques d'un objet physique, non ? Mais en même temps, ajouter des propriétés, ajouter des méthodes qu'on peut contrôler. Donc en même temps, on a, en ajoutant du logiciel à un objet physique, la capacité de l'augmenter lui-même, l'objet même, mais de le programmer et donc lui donner des caractéristiques d'autonomie qui sont de plus en plus intéressantes.
Et alors vous diriez que la période haute de la crise, qui était donc pour nous le confinement, qui a pincé le temps et l'espace pratiquement pour nous humains, c'est une sorte de rebond justement dans cette démarche-là.
Et je trouve que ça a été une pépite, vous voyez, comme à regarder sous les jupes du futur. Et donc ça nous a donné un esprit innovateur. Après, carrément, certaines entreprises étaient déjà prêtes, certaines entreprises étaient déjà dans ce mouvement, mais pas mal d'entre nous, non. C'était quelque chose qui n'expérimentait jamais, mais qui aujourd'hui expérimentent, ils ont expérimenté, ils ont vu et on a eu une possible longue vue sur ce que sera le futur de ces technologies et on voit comme ils sont beaucoup mêlés à nos activités.
Federico Pigny, alors comment vous voyez le monde qui vient?
Je crois qu'on a la possibilité avec les nouvelles technologies de remettre l'humain au centre de notre discours. Donc je vois un futur dans lequel l'homme comme race est homme. Ce n'est pas tout simplement une machine ou quelqu'un qui doit se soumettre à une volonté majeure d'une action sans qu'il soit effectivement vraiment une action humaine réfléchie.
Federico Pigny, qui est professeur et doyen du corps professoral à Grenoble École de Management, nous donnait son point de vue sur la société numérique et nous sommes, ça tombe très très bien, avec Émilie Rondet et Vincent Lehen qui sont venus nous parler du festival Transfo qui aura lieu mi-octobre dans tout le sillon alpin, festival qui s'intéresse, donc ce sera sa troisième édition, sa 3.2 édition, m'avez-vous dit avant le début de l'émission, pour les raisons que vous avez expliquées il y a un instant. Donc ce festival, évidemment, il a pour thématique principale le numérique. Cette année, il s'intéresse en particulier aux impacts du numérique sur la Terre et l'environnement. Le numérique, ça transcende nos vies. Comment on peut le dire ?
Oui, alors le numérique, c'est un outil. Et comme tout outil, on doit questionner ses usages. Et comme tout usage, l'usage est un choix humain. Et donc, comme tout outil, en fait, ça peut aussi bien apporter des choses qui sont très bonnes, mais aussi des choses néfastes. Et la question aujourd'hui qui est posée dans le cadre du festival, donc c'est quel numérique pour la planète ? On la questionne beaucoup sur quelles incidences cet outil, cette technologie, cette technique peut avoir sur notre société. Donc, nous, on considère plutôt vraiment comme son impact en termes de développement durable, donc à la fois sur le pilier économique, social et environnemental. Et les trois doivent être pensés en fait en même temps pour répondre à la question qu'est le numérique pour la planète. Et donc ce qui est intéressant dans le festival Transfo, c'est notamment dans les événements majeurs, on a à la fois une posture où on a des acteurs du numérique qui nous disent que le numérique peut apporter des choses qui sont absolument géniales, notamment sur tous les sujets liés à la transformation et la transition écologique. Et puis d'autres acteurs qui se questionnent notamment sur la résilience par exemple d'un territoire face au numérique, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus dépendant du numérique. Et comment, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un blackout? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut assurer tous les services?
Oui, oui, l'exergue de ça, c'est, on l'a vu tous quand on était enfermés chacun chez nous. Finalement, la vie sociale passait par Internet. Et puis, il y a un autre phénomène dont on ne se rend pas compte parce qu'il s'est complexifié très progressivement dans nos poches. Ça se passe dans nos poches, dans l'intimité des poches de chacun. C'est le téléphone portable qui, d'un objet qui permettait de téléphoner sans fil, de partout, c'était génial. Enfin, je me souviens de ces espèces de grands machins avec des antennes absolument monstrueux, dans lesquels il fallait gueuler en plus pour se faire entendre. Aujourd'hui, c'est tout. C'est même un appareil qui permet de payer, etc. Alors, parfois, on se demande quand même quel est le lien entre l'énergie et le numérique, l'énergie, l'environnement, etc. Parce que, en tant qu'utilisateur, on se dit, oh, bah, c'est tout à fait innocent. Ça se passe dans un petit appareil. D'ailleurs, j'ai pas envie de savoir quelle techno il y a là-dedans. Je m'en fous complètement. Hein, du moment qu'il m'amène tous les services et toutes les belles images et les beaux sons que j'ai envie d'avoir. Mais en fait, c'est pas si innocent que ça du point de vue environnemental.
Oui, parce que c'est vrai que le numérique, on parle du cloud ou en tout cas de dématérialisation, mais ça reste du matériel, des fils, des câbles, des serveurs. Et il y a des chiffres. Alors, je ne me souviens plus exactement de la source, mais on considère que si on devait rassembler tout le matériel qui est associé à l'utilisation du numérique, ça pourrait former un continent à part entière. Donc, ce n'est pas anodin, en fait. Ce n'est pas dématérialisé. Et c'est vrai que quand on envoie un email, forcément, ça passe. Ça utilise des outils qui sont des outils tangibles, palpables. Et la technologie ou même le smartphone nous fait perdre cette notion de matière et de matériaux.
Vous écoutez le Miroir des Sciences sur RKS. On revient dans un instant pour continuer cette discussion sur le festival Transfo qui a lieu rappelez-moi les dates.
Du 8 au 15.
Du 8 au 15 octobre.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le Miroir des Sciences.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le Miroir des Sciences.
Notre petit hommage à Juliette Gréco, décédée cette semaine à l'âge de 93 ans. C'est une chanson sur la différence qui nous rappelle le baiser de la lune. Je ne sais pas si ce titre vous dit quelque chose. C'est un court-métrage d'animation qui avait fait polémique en 2010. Cette nuit, j'ai rencontré Léon, le poisson lune, et il m'a fait briller comme un soleil. Dit le petit poisson-chat, et il poursuit « Oh, je ne l'ai toujours pas dit à grand-mère, mais ma princesse, c'est Léon. » Ce film proposé aux enseignants comme un outil didactique pour aborder la question de l'homosexualité, pour son réalisateur Sébastien Vatel, il s'agissait de donner une vision moins stéréotypée des relations amoureuses et de sensibiliser les élèves contre l'homophobie. Je vous le conseille, c'est magnifique, mais c'est pas du tout numérique. Ce sont des images qui sont travaillées au sable et en pastel animé. Donc, c'est un film qui a fait polémique sur ces sujets-là. Alors, les liens entre le numérique, justement, et puis les stéréotypes l'inclusion sociale. Vous dites dans le dossier de presse du festival Transfo, Vincent Lehen et Émilie Rondet, que c'est un festival inclusif, social et pointu. Alors, est-ce que le numérique peut nous aider à faire tomber les stéréotypes?
Alors.
La question est difficile, hein. Parce que quand même, Twitter, par exemple, qui est un pur produit du numérique, a tendance à forcer la caricature, puisqu'il nous oblige à nous exprimer en quelques mots. Donc c'est toujours de la caricature. Est-ce que ça ne fabrique pas du stéréotype, au contraire?
Je pense que, à partir du moment où il y a eu des médias, même avant les réseaux sociaux, c'est une source de création de stéréotypes, mais c'est aussi une source d'expression qui permet aussi de casser certains codes. Alors, c'est peut-être des médias de niche, hein, mais en tout cas, c'est des questions qu'on a toujours questionnées. Mais c'est vrai que la question des réseaux sociaux pose la question de l'amplification de toutes ces choses-là et ton contrôle et de comment on contrôle sans non plus, aller contre le droit à l'expression ou toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça reste toujours une question d'usage et en effet, ces technologies peuvent avoir tendance à amplifier certains domaines. En revanche, peut-être...
Il y a un rebond d'ailleurs sur ce débat depuis hier, puisqu'il y a eu ce malheureux attentat nouveau, oui. Là, dans les anciens locaux, enfin, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Oui. Et effectivement, ça se reporte sur les messages de haine qui, paraît-il, se multiplient sur les réseaux sociaux.
Oui, exactement. Et ce qui est assez dommageable, c'est que finalement, on parle beaucoup plus de ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a des personnes du coup qui souffrent aussi de tout ce qui peut être harcèlement ou des messages haineux qui peuvent être sur les réseaux sociaux. Donc après, c'est ce qui n'est pas évident en fait sur cette question-là, c'est que où est-ce qu'on place le législateur et l'État sur la régulation de toutes ces choses-là et ce qui est toujours difficile avec les
technologies. Entre liberté et puis, puis règles de vie communes et respect des autres.
Ouais, et c'est vrai que les technologies ont souvent un temps d'avance, ou l'appropriation des technologies a souvent un temps d'avance parfois aussi sur la régulation de ces choses-là. Et c'est un débat actuel, ça l'a été avant et je pense que ça le restera. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où tout s'accélère et donc ça devient, je pense, de plus en plus compliqué de réguler ces choses-là. Alors par contre, en revanche, aussi à travers les réseaux sociaux, ça permet quand même l'expression aussi d'individus qui avant n'avaient pas la parole dans des médias qui étaient des médias, on va dire, télé ou des médias où il faut avoir un certain aura pour pouvoir y accéder et prendre la parole. Et il y a notamment, je pense, à certains peut-être comptes Instagram ou Twitter qui permettent aussi de mettre en avant, de casser des tabous, casser des clichés. Voilà, tout est question d'usage à chaque fois.
Oui, alors effectivement, c'est sympathique la multiplication des points de vue. Ceci dit, bon, il faut faire aussi attention aux sources. Donc, moi, je trouve que toutes ces plateformes qui portent des initiatives individuelles permettent de faire repérer des nouveaux talents, des personnes qui ont des points de vue différents. Ceci dit, c'est vrai que personnellement, je suis un peu rassuré quand je les vois invités sur les grands médias, parce que je me dis, dans les grands médias, il y a des équipes de journalistes derrière qui ont revérifié, recoupé, que les gens qu'ils invitent, en principe, sont à peu près porteurs de quelque chose de validé et d'un petit peu général. Raphaël Varela.
Je voulais juste rajouter, parce que quand on parle de numérique, on parle souvent de réseaux sociaux, mais il y a d'autres technologies de numérique qui permettent aussi de faire tomber des stéréotypes, notamment peuvent relier des communautés qui sont isolées, comme vous avez dit tout à l'heure, où on a des personnes qui n'ont pas forcément la voix et ont la possibilité de parler, de se faire entendre. Et je pensais notamment à des technologies qui permettent de voir, dans des pays en Afrique ou des choses comme ça, ou des pays comme ça.
Ou en
Amérique du Sud, exactement. Où on peut avoir de l'empathie pour des gens qui sont éloignés et faire tomber notamment des stéréotypes par rapport aux migrants ou par rapport à des communautés pauvres. Oui, voilà l'exemple que je voulais donner.
Alors, vous faites bien de prendre la parole, puisqu'on vous accueille pour la première fois dans cette émission du Miroir des Sciences sur RKS. Raphaël, vous êtes expert en techno du numérique et vous avez accepté de partir avec nous dans l'aventure en venant à peu près au rythme de une fois par mois, chroniquer dans l'émission. Alors, le thème sur lequel vous avez travaillé aujourd'hui, c'est évidemment le thème du Festival Transfo, quel numérique pour la planète, n'est-ce pas ?
Oui, exactement. Bon, c'est une thématique dont on parle beaucoup récemment, et notamment depuis le confinement. On a tous vu avec la crise sanitaire l'augmentation de la pratique du numérique, soit avec le télétravail, les cours en ligne, les vidéos en ligne aussi. Bref, beaucoup s'interrogent sur la responsabilité environnementale du secteur et des solutions que ces technologies peuvent proposer. C'est aussi une des thématiques du festival. Selon une étude de l'ADEME, c'est une agence de l'INSEE qui s'occupe de la transition écologique, publiée l'année dernière, les numériques seraient à l'origine de presque 4% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde en 2018.
Ah, vous voyez, Emily, lui, il les a, les chiffres.
Et même plus de 4% de la consommation mondiale d'énergie. Et en France, les numériques représentaient 2% du total des émissions en 2019. Pourquoi cela est pertinent maintenant, ou pourquoi je veux parler de ça maintenant? C'est parce que, je ne sais pas si vous avez suivi les médias récemment, ces dernières semaines, mais les GAFA, c'est un acronyme, donc regroupe les gros du secteur numérique.
Google, Amazon, Facebook et Apple.
Exact.
Et Microsoft.
Ça fait GAFAM. Les GAFAM.
Oui. Ils ont annoncé, en fait, des projets très ambitieux pour devenir neutre en émissions de carbone d'ici 2030. Alors, Google a encore dit mieux. Il y a deux semaines, ils ont annoncé qu'ils veulent pas se contenter d'être neutres, ils veulent devenir invisibles carboniquement.
Mais Raphaël, c'est vraiment possible ça ? Invisible de point de vue carbonique ?
Bien entendu, Google il parle des émissions provenant de sa propre consommation énergétique. Donc, on ne parle pas de la production des équipements ou de cycle de vie d'un composant électronique. Donc être neutre pour eux consiste à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour leur opération. Et être invisible, c'est en fait faire de la compensation carbone, investir dans des projets qui peuvent récupérer ou éliminer les émissions ailleurs. Donc, c'est une annonce plutôt publicitaire qui a fait le buzz et peut-être c'est une conséquence de la crise des incendies en Californie maintenant.
Alors, il faut peut-être revenir en arrière et arrêter. Vous allez bondir. La transition numérique en pleine route, alors ?
Non, je dirais que non. C'est aussi...
Ah, ouf ! On voit, Mon petit téléphone portable que j'aime tant.
Il y a beaucoup d'avantages aussi que le numérique il nous amène. Il faut dire aussi que l'innovation technologique dans le numérique peut apporter des solutions à quelques enjeux sociétaux et écologiques. Et dans ces domaines, la France, et en particulier la métropole de Grenoble, est plutôt bien placée. Si on prend l'exemple de la technologie silicium sur isolant qui est utilisée dans tous les équipements mobiles, notamment les smartphones, les télés, les voitures, elles permettent une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 18% et pour certaines applications, même 5 fois moins de consommation. Et c'est notamment la spécialité de la société Soitec qui est située à Berlin, ici à côté de Grenoble. Nous pouvons aussi citer une autre société de la région qui apparaît beaucoup dans les médias. Ils s'appellent Aledia. Ils sont spécialisés dans les domaines des LED 3D pour tout type d'écran, notamment les écrans portables. Aledia a développé une technologie qui permet de fabriquer des diodes à partir des nanofils. Cette technologie est moins énergivore que celle présente dans le marché aujourd'hui. Et qui dit moins besoin d'énergie, dit moins d'émissions.
Donc, votre vision, Raphaël, pour le numérique pour demain ?
Alors, le numérique, il a un impact, on en parle tous, il y a un impact qui est non négligeable, c'est un constat. Plusieurs études sont en cours d'exécution pour savoir si cet impact est contrebalancé par les effets positifs du numérique. Il y a une étude de l'ADEME qui est apparue récemment qui montre qu'au moins pour le télétravail, le bilan reste positif. Et les entreprises s'activent pour rattraper leur impact, comme Google, dont on a parlé tout à l'heure, même si ses propos restent incorrects, mais en matière de climat, une ambition même qu'impossible est préférable à rien du tout.
Oui, c'est vrai. Ça, on peut le souligner. Alors, Raphaël évoquait des entreprises du coin. Donc, il y a une dimension absolument régionale. Et là aussi, dans la promotion du festival, vous soulignez le lien si particulier qui existe sur notre territoire entre les citoyens d'une part et les acteurs de l'économie et de l'innovation pour ce festival Transfo. Émilie Rondet.
Ok. C'est vrai que... On va dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins pionnier sur la thématique numérique et société qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, c'est des questions qui sont prises par de nombreuses personnes. Mais je pense qu'en effet, ce n'est pas anodin que ce festival soit né sur Grenoble. On est une terre reconnue pour tous les sujets liés à l'innovation. Et puis, on est topographiquement dans un lieu qui, forcément, nous questionne beaucoup sur l'impact environnemental, avec des pics de pollution réguliers, une incidence qu'on voit très clairement sur les montagnes. Je pense que quand on vit peut-être depuis 10 ans, voire même plus sur Grenoble, on se rend compte quand même, quand on regarde les montagnes, qu'il y a quelque chose qui change un peu. La neige fond beaucoup plus vite.
Elle peut arriver aussi beaucoup plus vite. Vous avez vu que ce matin, on commence à avoir du blanc.
C'est ça.
Oui.
Et le fait qu'il y ait ce bouillonnement aussi scientifique, qui se pose en effet les bonnes questions, qui s'appuie sur des bons chiffres, qui questionne les beaux sujets, le fait que même politiquement, en fait, ça se ressent, en fait, toutes ces choses-là, c'est pas anodin, en effet, que les sujets de société et que le questionnement de la technologie se fassent ici à Grenoble, peut-être
pour autant, avant qu'ailleurs. Et pour autant, vous affichez une ambition qui va bien au-delà des Alpes pour Transfo.
Alors oui, en effet, ce questionnement, il naît ici, mais c'est inévitable qu'on a envie de faire rayonner ce questionnement et envie de poser les questions au-delà des Alpes. L'ambition, c'est vraiment de faire connaître le sujet et faire en sorte d'entraîner ou de créer un effet d'entraînement, en tout cas, autour de ce questionnement. Et puis après, au-delà juste de la prise de conscience, que les personnes agissent pour participer à cette transformation.
Raphaël Varela.
Oui, c'est justement, je voulais juste rebondir sur le fait que l'événement est un rayonnement au-delà des Alpes. C'est que, on a parlé tout à l'heure, les technologies du numérique, elles permettent de relier des gens un peu partout et l'impact de ces technologies, en fait, ils sont perçus peut-être ailleurs que dans leur place d'utilisation. Donc c'est nécessaire même que les questionnements se fassent au niveau global.
Vincent Lehen, l'un des coordinateurs du Festival Transfo, et Émilie Rondet, déléguée générale de la French Tech in the Alps, Grenoble, nous parle de Transfo, qui aura lieu, rappelez-nous les dates encore une fois, du 8 au 15 octobre dans tout le sillon alpin. On revient dans un instant avec la collection des miroirs.
Courait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. Elle apparut un soir par la cheminée. À son atterrissage, c'est lui qui est tombé. Cette première fois, le lapin se sentit douce. Imaginez que ce parachute une jolie blonde chez vous. Le programme improvisé respirait le bon parfum. Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin. Des merveilles, il lui ferait savoir qu'un de ces soirs, il serait roi. Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers. La profonde timidité fit son entrée dans le terrier. Le lapin entrevut le début de ses déboires. Tout se renversa lorsque Alice se mit à boire.
sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième vers, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième vers annonça le rodéo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeurée, le lapin se tirafissa. Pas assez d'audace.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Ibrahim Malouf et Oxo Puccino, tombés longtemps sur RKS. Nous reprenons notre conversation avec Émilie Rondet et Vincent Lehen autour du festival Transfo, autour et sur le festival de Transfo. Madame, Monsieur, vous avez devant vous la collection de l'émission qui justifie donc son titre. Ce sont des miroirs, ils tiennent tous dans une petite pochette noire. Et je vous ai demandé pendant la pause musicale avec Ibrahim Malouf d'en choisir chacun un. Alors vous allez le prendre dans vos mains et le décrire pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. Et puis ensuite, vous nous direz ce qui vous inspire. Pourquoi on vous demande ou on vous propose de travailler un petit peu sur les miroirs? Parce que le miroir, c'est un objet technologique par excellence. C'est pas évident du tout de faire une plaque de verre bien plane avec un dépôt métallique qui ne s'oxyde pas et qui réfléchit bien la lumière. C'est aussi un objet du quotidien. On en a tous chez soi des miroirs de tous les formats. Et puis, c'est l'objet scientifique par excellence pour observer aussi bien les étoiles que les cellules vivantes. Alors, qui veut commencer?
Eh ben, apparemment, c'est moi.
Vincent Lehen.
Eh ben, écoutez, j'ai pris un miroir qui fait un peu miroir du 18e siècle, qui est particulièrement lourd. Ça fait un petit peu, je dirais, un miroir pour une dame qui voulait se coiffer, on va dire, à l'époque... peut-être même napoléonienne, je ne sais pas trop. Il m'inspire, en fait, c'est juste qu'il est lourd et qu'on n'en trouve plus du tout, des comme ça. Il est particulièrement sculpté. Je trouve ça très original parce que c'est un petit peu... ça a une dimension un peu antique, finalement. Et voilà. Ça me fait rire, en tout cas. Voilà,
Antique et romantique, peut-être.
Oui, romantique aussi. Oui, on peut effectivement voir ça aussi.
Alors Vincent, qu'est-ce qui vous a amené à partir dans cette aventure du festival Transfo?
Alors moi, je suis dans l'aventure depuis l'année dernière, en fait. J'y suis entré pour travailler d'abord sur les réseaux sociaux et cette année, j'ai été invité en tant que bénévole pour l'édition du mois de mars et puis aujourd'hui en tant que chargé de communication du festival. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler avec une équipe, travailler dans l'événementiel déjà et travailler sur une aventure qui réunit des acteurs de tout horizon. Et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir aussi avoir un pied... avec ces entreprises du numérique que j'avais pas eu l'opportunité d'aborder ou en tout cas de rencontrer auparavant. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'abord le côté humain que le festival génère et les rencontres que ça crée.
Vous avez un master que vous avez passé à l'Institut de communication et des médias et vous êtes intéressé à la construction identitaire sur les réseaux sociaux. Donc il y avait déjà là une connexion avec le numérique très très forte.
Oui, pour être exact, c'est un master de sociologie en partenariat avec l'Institut de la communication et des médias. Oui, la question identitaire m'a toujours questionné pendant 3 ou 4 ans de mes études. Je trouvais ça très intéressant de pouvoir réfléchir à la manière dont, d'une part, on écrit sur les réseaux sociaux et ce qui m'intéressait particulièrement,
Et la manière dont on se... Parce que pour tourner autour du terme d'identité, la manière dont on se construit une identité
oui,
numérique...
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, c'est écrire sur les réseaux sociaux, il y a effectivement ce côté d'écriture, mais c'est une manière de se présenter soi. de se raconter d'une certaine manière une partie de soi qui est déformée, qui n'est pas totalement la réalité. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et c'est, moi, j'avais travaillé sur la question des blogs à l'époque, en 2012. Mais aujourd'hui, ça reste toujours pleinement d'actualité, et notamment même avec Instagram, hein, où on écrit peu, mais on se prend beaucoup en photo. Et c'est toujours une mise en scène de soi qui je trouve, est particulièrement intéressante et en même temps qui questionne beaucoup.
Qui peut être dangereuse aussi.
Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Finalement, il y a une espèce de culture de l'ego et une représentation de soi. On vit presque par rapport à l'image qu'on projette de soi plutôt que notre identité personnelle et du quotidien.
Alors, certains établissements de formation supérieure prennent la question à bras-le-corps. J'en veux pour preuve, là, cette semaine, à Grenoble, école de management, il y avait donc la session d'inclusion des nouveaux étudiants. Ils se sont bien sûr gratté la tête, là, tous les enseignants, dont Frédéric Opigny, qu'on a entendu au début de l'émission, pour organiser une rentrée qui puisse fédérer l'ensemble de ces étudiants et en même temps permettre de respecter les consignes de prévention sanitaire. Donc, il était impossible de faire un bootcamp comme ils le faisaient les autres années pour les mettre tous ensemble, les mettre à travailler en mouvement pour que, dès le début, il y ait des liens qui se forment. Alors, ils les ont réunis sur une plateforme numérique et chacun des acteurs de cette rencontre était muni d'un avatar. Donc, ce serait intéressant d'analyser un petit peu cette expérience pour voir comment chacun a vécu d'avoir son propre avatar. Déjà, est-ce que moi, en tant qu'avatar, j'étais bien coiffé, j'avais un aspect correct par rapport aux autres? C'est important quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, hein.
Ah ben complètement, c'est vraiment ce que vous dites, l'identité numérique qu'on va se créer à côté, à travers un avatar. Mais l'avatar, vous l'avez effectivement là pour GEM dans leur phase de présentation d'entrée. Mais vous créez un avatar quand vous créez un profil sur Facebook, vous en créez même un quand vous écrivez un profil sur LinkedIn et que vous communiquez avec votre communauté. C'est vraiment de la mise en scène de soi. C'est une se donner à voir d'une certaine manière. Donc oui, il y a beaucoup de choses à... Ça reste très actuel, hein, et la mise en scène du jeu, comme on dit, J-E, hein, bien sûr, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant à l'époque, et je trouve que voilà, c'est encore très actuel. Il y a encore beaucoup à étudier.
Émilie Rondet, déléguée générale de la French Tech ici sur la région grenobloise. Alors, vous aussi, vous avez choisi un de nos miroirs.
Oui, j'ai choisi ce miroir parce que j'ai trouvé qu'il avait un aspect très scientifique et pour moi, je l'associe pas mal à la découverte.
Alors, il faut le décrire un petit peu.
Alors, pour vous le décrire, il a un manche en bois... Un manche en bois avec une structure, j'imagine, en laiton. Et il pivote sur lui-même. Donc j'imagine qu'il y a différents degrés de miroir. Il y en a un qui doit être peut-être plus grossissant que l'autre.
Quel usage, à votre avis ?
Alors, quel usage ? Je n'en ai aucune idée. Non, véritablement, je...
Enfin, c'est un miroir de marine.
J'imagine bien ça dans un bateau.
Du 19e siècle, qui permet de faire des petits signes à un autre bateau à distance avec le soleil. Voilà, c'est pour ça qu'il est orientable. Et donc, vous avez effectivement une partie plane et puis une partie concave. Concave, Raphaël, concave,
oui,
hein, c'est ça,
concave.
Merci.
Elle
est convexe. C'est convexe. Bon, il va falloir qu'on révise. En tout cas, une partie qui est susceptible de concentrer les rayons du soleil pour aller encore plus loin.
En tout cas, ok, merci. Mais vous me demandez ce que ça m'évoquait ?
Oui.
C'était ça. Ça m'évoquait, moi, comme je vous disais, l'exploration et la découverte. Et forcément, je vais l'associer au Festival Transfo.
Bah oui.
Voilà, parce que...
Vous êtes en plein dedans, hein,
ouais.
Avec le miroir de Marine.
Ce qu'on se disait à travers toutes ces questions, et notamment la question des réseaux sociaux et toutes ces incidences, le harcèlement, ces choses-là, je pense que derrière, il y a la principe d'éducation, le fait de faire connaître les choses, de désacraliser, d'enlever tous les fantasmes autour de ce qu'il peut y avoir autour des technologies. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, ce qu'on essaye de faire à travers le festival, alors bien sûr, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est ce vers quoi on veut aller, c'est faire en sorte que les gens se questionnent, prennent conscience de toutes les transformations qui sont engendrées sur les sujets numériques, que ce soit sur l'aspect social, l'aspect environnemental. Et à partir du moment où on a ces clés de lecture, alors c'est pas toujours évident d'aller les chercher, là, pour le coup, on a un esprit critique et on peut se positionner sur des questions qui sont complexes. Et c'est ça qu'on essaye de faire et qu'on essaiera toujours de faire.
Vous êtes intéressé ou vous vous intéressez à la question de l'utilisateur et votre leitmotiv, c'est toujours de mettre l'utilisateur final, qu'il soit citoyen, qu'il soit consommateur, au cœur du système. Donc, ce personnage, il faut aussi le doter d'un esprit critique, justement.
Oui, exactement. Et je pense, je rebondis encore par rapport aux réseaux sociaux, le citoyen n'a jamais eu autant, j'imagine, autant d'impact de manière individuelle qu'auparavant. On voit très bien aussi sur des choses assez superbes, sur l'engagement notamment qu'il y a eu par rapport à ce qui s'est passé au Liban, sur le fait d'impliquer et de soulever des aides financières du peuple, du public, pour accompagner en tout cas le pays du Liban à se relever. Et oui, le citoyen a un pouvoir aussi, je pense, sur les entreprises, sur l'État et sur toutes ces choses-là. Donc oui, en effet...
Et on ne faut pas hésiter à s'engager. C'est ça que peut-être un peu votre
Pourquoi
message.
Pas Chacun fait comme il veut. En tout cas, oui, si on a envie de le faire, il faut le faire.
Émilie Rondet et Vincent Lehen sont avec nous au Miroir des Sciences sur RKS pour parler du Festival Transfo. Et justement, nous allons regarder quels sont les temps forts de la programmation de ce festival. Alors, Vincent, on vous fait travailler un petit peu. Faites-nous votre propre lecture de la programmation de ce festival. Vous m'avez dit combien d'événements ?
150.
150, hein, c'est ça. Voilà, donc si vous avez votre meilleur ami à côté de vous, dites-vous que c'est moi. Voilà. Qu'est-ce que vous me confiez à l'oreille, très personnellement, et vous me recommandez d'aller voir quoi ?
Alors, en fait, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y en a qui vont être plus orientés sur l'intelligence artificielle, par exemple. Donc là, il y a un événement qui est organisé par Hewlett-Packard Enterprise qui s'appelle Les écosystèmes et la technologie au service de la planète. C'est un événement en deux parties qui aura lieu en ligne le 13 octobre. Il y a également l'Institut du MI-AI qui, avec l'UGA, organise le MI-AI Day le 9 octobre à Grenoble. C'est en ligne également.
Alors, il faut dire ce que c'est que le MI-AI quand même. Enfin, IA, c'est intelligence artificielle.
Oui, c'est intelligence artificielle. Et MI, c'est multidisciplinarité, Institut de multidisciplinarité de l'intelligence artificielle.
Alors, je me tourne vers Raphaël. Il faut qu'on note de faire une émission sur l'intelligence artificielle et sa multidisciplinarité pour creuser un peu le sujet. Hein, quand même.
Oui, effectivement, j'étais en train de noter l'agenda parce que je compte participer à l'événement.
Vincent Lehen.
Il y a un très bel événement aussi sur l'éthique de la donnée et comment réfléchir sur justement à aujourd'hui avec cette ces données qui nous envahissent, quelle éthique il faut...
Là aussi, au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, les sites qu'on va consulter, les commandes qu'on passe par Internet,
tout
est stocké. Quand on prend son ticket d'e-voyage pour le tram tag, c'est aussi stocké, on sait que vous êtes passé par là. Voilà, donc il y a des questions sur comment on peut utiliser intelligemment et de façon éthique.
Il y a des questions juridiques aussi derrière de comment protéger finalement ces données pour les utilisateurs. Et à ce niveau-là, il y a le campus numérique in the Alps avec HPE qui va proposer un événement qui s'appelle « Quelle éthique, quel numérique ?». qui aura lieu le 12 octobre en ligne. Et pour l'occasion, d'ailleurs, on aura Kat Borlongan qui va être invitée, qui est responsable de la French Tech, si je ne me trompe, et également Claude Kirchner, qui est pour sa part directeur du Comité national d'éthique du numérique. Donc c'est un événement qui, à mon avis, une table ronde qui va être particulièrement intéressant.
Rappelez-nous où elle a lieu.
Alors c'est uniquement en ligne pour le coup.
Uniquement en ligne, oui. D'accord.
Mais toujours en s'inscrivant sur le site du festival, hein, bien évidemment. Il y a un événement organisé par l'agence d'urbanisme de la région grenobloise qui s'appelle Numérique de la dépendance à la résilience. Émilie en a un peu parlé tout à l'heure. Ça, c'est le 12 octobre, au Totem. C'est un de nos événements majeurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par exemple, Orange, qui va nous proposer un événement intitulé « Environnement et numérique, quels impacts ?» hein, le 9 octobre. Là aussi, événement majeur de l'édition et 100% en ligne. Après, il y a des événements qui vont être plus orientés pour les entreprises. Il y a l'agglomération Grand Lac qui propose 10 conseils d'experts pour réussir avec le web. Ça aura lieu le 12 octobre à Chambéry. Il y a également Solike qui va questionner sur comment maîtriser et booster sa e-réputation. Ça sera le 12 dans le Pays Genevois. Ou encore...
Allez, une dernière date.
Alors, une dernière date. Une dernière date qui est un petit peu plus originale, parce que ce n'est pas une date, mais c'est quatre dates. C'est Renault Détaillé, l'association Passagers de la Terre, qui va proposer un événement. C'est la première fois qu'on va voir ça avec le Festival Transfo. Ça s'appelle la Transfo Vélo pour un équilibre du numérique en mouvement. Et il a eu une excellente idée, c'est de relier les cinq villes organisatrices. Pont-en-Royans, Grenoble, Grenoble-Chambéry, Chambéry-Annecy, Annecy-Annemasse. Et l'idée, c'est de faire ça en vélo VTT électrique pour une mobilité douce qui utilise le numérique pour lier l'humain et le numérique. Et ça s'annonce passionnant. On va vous diffuser un clip de présentation sur les réseaux sociaux la semaine prochaine.
Festival Transfo du 8 au 15 octobre. Merci à Vincent Lehen et merci à Émilie Rondet d'être venue au Miroir des Sciences ce matin. Merci à vous.
Merci.
Le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger, qui n'est pas là aujourd'hui, réalisée par Jérôme. Voilà, j'ai écrit encore Jérôme sur mon conducteur. Le Festival Transfo du 8 au 15 octobre, tout au long du sillon alpin. Merci donc à Vincent Lehen, coordinateur du festival, Émilie Rondet, déléguée générale de la French Tech in the Alps Grenoble. Merci aussi et bravo à Raphaël Varela. Vous revenez le mois prochain ?
Oui.
D'accord. Bon, bah, très bien. On a passé l'examen. Vous aurez votre ronde serviette sur cette table. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et toujours sur RKS. À tout seigneur, tout honneur, nous parlerons de l'incontournable marronnier annuel de la culture scientifique, la fête de la science, dont le programme n'en finit pas de se délayer. On nous annonce cette année des événements du 2 octobre au 16 novembre. Ce n'est plus une fête, c'est un carême, c'est un Yom Kippour, c'est un ramadan. Dans un instant, les infos et la cuisine de Francis. Bonne journée sur RKS. Yes.